Cotable.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Il faut que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découverts, c'est la cuisine très engagée, c'est les personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute. Bonjour Marc Dufumier.
Bonjour.
Je suis ravie de vous recevoir dans ce format personnalité de Sur le grill décotable. Il est difficile de vous présenter tant vous avez fait de choses. Je vais quand même essayer. Après une formation d'ingénieur agronome et un doctorat en géographie, vous avez mené de nombreuses recherches et missions d'expertise dans plusieurs pays en voie de développement. En tant que spécialiste des systèmes agraires et de leur évolution, vous avez enseigné à AgroParisTech de 1977 à 2011. Vous dirigez la chaire Agriculture comparée et de développement agricole à partir de 2002. En parallèle de vos activités d'enseignant-chercheur, vous avez exercé de multiples activités. D'abord en tant que président de l'IRAM de 1987 à 1994, puis en tant que membre du Conseil stratégique de l'agriculture et de l'agro-industrie durable au ministère de l'Agriculture et de la Pêche de 2008 à 2012. Puis vous êtes devenu président de Commerce Équitable France jusqu'en septembre 2020. Aujourd'hui, vous êtes encore président de la Fondation René Dumont et membre du conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot. Au cours de votre carrière, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur l'agriculture, l'alimentation et l'écologie, parmi lesquels « Famine du Sud »,« Malbouffe au Nord »,« Comment la bio peut nous sauver », paru en 2012 aux éditions Nil, et « L'agroécologie peut nous sauver » en 2019 aux éditions Actes Sud. L'objectif de ce podcast est d'apprendre à vous connaître par le prisme de l'alimentation. Je vais donc vous parler évidemment de transition écologique et alimentaire. Pour commencer, je voudrais que les auditeurs et auditrices apprennent à vous connaître via un portrait de cuisine. Je vais donc vous demander simplement de répondre à des questions de façon spontanée. Est-ce que vous êtes prêts ?
Oui, on va essayer.
Si vous étiez un aliment, un ingrédient, ce serait quoi ?
Oh, je serais un verre de farine.
Un verre de farine ? Pourquoi ?
Parce que c'est des belles petites bestioles, ça grouille un peu partout. Figurez-vous que c'est bon à manger.
Ah bon ?
Pas plus tard que hier au salon d'agriculture, France 3 m'a fait manger des vers de farine, des grillons, des criquets. C'est très bon.
Donc quand on en voit dans nos farines, faut pas jeter nos farines, quoi.
Voilà, exactement. Vous pouvez être un petit élevage de vers et ça peut être très bon. C'est riche en acides aminés essentiels, c'est très équilibré. Bon, en fait, j'en mange au moment des apéros.
Et est-ce que c'est un indicatif que la farine est bio ?
Alors, non, pas forcément. Il y a des vers de farine, enfin, à vérifier si les vers de farine subsistent plus longtemps dans des farines qui seraient pas bio. Je ne suis pas capable de répondre.
Si vous étiez un plat.
Oh, le faux plat.
C'est-à-dire ?
Voilà, c'est juste.
Ce qui est le plus simple.
Oui, c'est le plus simple, exactement. Oui. C'est pas mauvais à manger non plus.
Si vous étiez un ustensile de cuisine.
Ah, là, c'est peut-être... c'est la louche.
La louche ?
Oui.
Pourquoi ? Vous aimez la soupe ?
Oui, exactement. La soupe. La soupe au potiron, c'est très bon.
Si vous étiez un alcool.
Ah, alors, là, j'hésite, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont en concurrence. Mais disons que comme je suis normand, on va citer le Calvados.
Est-ce que vous avez un restaurant coup de cœur ?
Ah non, j'ai pas de restaurant coup de cœur, je diversifie mes restaurants.
Vous êtes plutôt restaurant ou plat fait maison ?
Les deux, c'est-à-dire que je fais quand même, donc je suis vagabond hein, de par mon métier, je suis un peu allé partout, donc je vais quand même assez souvent au restaurant, oui.
Est-ce que vous avez un premier souvenir lié à l'alimentation, une Madeleine de Proust ?
Alors, beaucoup de souvenirs liés à l'alimentation. Mais là, comme je reviens de République centrafricaine, ce sont des souvenirs anciens qui me reviennent, c'est le chikwang.
C'est quoi le chikwang ?
Le chikwang, c'est du manioc amer qui a été préalablement roui Donc évidemment, il y a un goût de ferment très très élevé. On en fait une pâte, ça se mange donc, et pour être très honnête, on mange, mais voilà que ça s'arrête. Et donc, il vaut mieux prendre des pruneaux d'Agen aussitôt après.
Ah bon?
Ça permet de faire passer.
D'accord.
Mais disons que c'est... Non, le chikwang, c'est une alimentation de pauvres, hein, pour être honnête, dans les pays pauvres, issus du manioc. Mais c'est un goût très fermenté. Et effectivement, le fait que ça arrête un peu la digestion, on n'a plus faim après ça. Voilà, ça trompe un peu la faim.
Qu'est-ce que représente l'alimentation pour vous?
Alors, pour moi, c'est les premières nécessités. Pour être très honnête, quand j'étais jeune, agronome, juste formé, formaté, même je dirais aujourd'hui, je voulais mettre fin à la faim. Donc, pour moi, l'alimentation, c'est déjà mettre fin à la faim et à la malnutrition. Donc, avoir une ration équilibrée, les calories, les protéines, les vitamines, les minéraux, les fibres, les antioxydants, les polyphénols. Enfin, une alimentation équilibrée. Écoute, mon souci était toujours que tout le monde puisse manger sans avoir faim.
Et est-ce que vous-même, vous faites attention à ce que vous mangez au quotidien?
Alors, la réponse est quand même oui, oui, oui. Ça n'a pas toujours été le cas, hein, pour être honnête, mais c'est le fait d'avoir vécu beaucoup à l'étranger dans différents pays. J'ai d'abord appris, effectivement, à manger beaucoup de choses très différentes, hein, y compris les verres de farine. Hein. C'est pas en France que j'ai appris à manger ça, c'est plutôt en Thaïlande, au Laos. Mais oui, aujourd'hui, l'équilibre dans l'alimentation, oui, oui, c'est... Enfin, c'est pas une préoccupation du quotidien, j'angoisse pas de ce point de vue-là, mais oui, je pense avoir une alimentation relativement équilibrée du fait que j'aime bien la diversité.
Et qu'est-ce qui vous a convaincu concrètement d'être agronome? C'est ce fait de vouloir mettre fin dans le monde ou il y a eu d'autres éléments?
Alors, c'est un professeur de géographie, je crois que je devais être en classe terminale, comme on disait à l'époque. Il y avait une famine en Inde. Y compris l'aide alimentaire ne parvenait pas aux gens qui avaient faim parce que les infrastructures portuaires suffisaient pas pour accueillir toute l'aide alimentaire. Et ce professeur de géographie nous avait demandé, nous les élèves, de ramener une petite boîte de lait concentré pour donner aux Indiens pour qu'ils aient pas faim. Alors évidemment, ça s'appelle la charité et je pense que ça ne résout rien au problème de la faim, de la malnutrition dans le monde. Mais ce cours de géographie, du coup, nous avons fait un cours sur l'Inde et la famine, les causes de la famine. Et je pense que c'était à cet âge-là où mon ambition, j'étais pas forcément très modeste, mettre fin à la faim.
Est-ce que vous pouvez maintenant vous présenter de manière plus traditionnelle? Qui êtes-vous, Marc Dufumier?
Eh ben, du coup, effectivement, j'ai plutôt tendance à me présenter comme ingénieur agronome. Ayant ensuite plutôt travaillé dans les pays du tiers-monde, on disait autrefois, les pays du Sud. Donc j'ai travaillé à Madagascar, j'étais en expatriation à Madagascar en remplacement de mon service militaire. Ensuite c'était le Venezuela sur des questions de réforme agraire, ensuite au Laos sur des questions de riziculture, d'agroforêt. Et ensuite j'étais enseignant-chercheur, j'étais une chose dont j'étais sûr quand j'étais agronome formé, c'est que je ne serai jamais enseignant. Bah, du coup, je suis devenu enseignant-chercheur.
Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis?
Alors, c'est de retour d'expatriation. Vous avez cité l'IRAM tout à l'heure, qui est l'ONG qui m'embauchait. Donc, quand j'étais au Venezuela et au Laos, c'est de retour de mon expatriation. Le président de l'IRAM de l'époque était aussi professeur en sociologie. Et c'est lui qui a rencontré un des anciens professeurs. De l'Institut national agronomique, en lui disant, il y a un jeune là, enfin jeune, je n'étais plus complètement jeune quand même, mais qui revient et qui a une expérience, et du coup, ce professeur de l'Institut national agronomique m'a demandé si je voulais bien être son assistant.
Et ça vous a plu d'enseigner?
Et en fait, oui, ça m'a plu d'enseigner, j'adore donner des leçons.
Donc, comme vous l'avez dit, à la suite de vos études d'ingénieur agronome, vous êtes parti dans de nombreux pays qu'on appelait en effet à l'époque du tiers-monde. Vous êtes parti notamment à Madagascar d'abord. Pourquoi vous avez fait ce choix?
Alors, il faut savoir que quand j'ai fait des études d'agronomie, j'ai eu comme professeur Monsieur René Dumont. Monsieur René Dumont était agronome tiers-mondiste, on disait, donc très préoccupé de mettre fin à la faim et à la malnutrition dans ce qu'on appelait le tiers-monde. Il était d'ailleurs, quand il était mon professeur, il était encore assez productiviste, c'est-à-dire face à l'accroissement démographique exponentiel, il faudra toujours produire plus. En fait, ce même monsieur est devenu, rappelons-le, écolo, et c'est le premier candidat écologiste dans une présidentielle en 1974.
D'accord.
Et donc, à la fois, j'ai eu une ouverture sur des questions de faim, de malnutrition et de comment produire davantage dans les pays du Sud, et une initiation aussi à l'écologie, mais j'ai coutume de dire que c'est les femmes malgaches analphabètes, donc en remplacement du service militaire, je faisais un service de coopération civile, j'avais quasiment mon diplôme, enfin d'agronomie générale à l'époque, je savais ce qu'était une variété améliorée, je savais ce qu'était une mauvaise herbe, j'enseignais la riziculture améliorée, et ces femmes malgaches m'ont dit que j'étais nul, que avec mes herbicides, je tuais les canards, avec mes insecticides, je tuais les escargots, avec mes fongicides, je tuais tout le reste, les grenouilles, les escargots, les canards, les poissons, et que je tuais toutes leurs sources de protéines. Bref.
Donc ça vous a fait prendre conscience de l'enjeu de l'agriculture moderne?
Oui, voilà, ça m'a fait prendre conscience des défauts de l'agriculture industrielle, on va dire. Et que leur objet de travail à ces femmes, c'était un écosystème d'une incroyable complexité. Elles m'ont pas tout raconté, elles m'ont pas dit qu'il y avait les cyanobactéries qui fixaient l'azote de l'air et fertilisaient le riz en azote et ce genre de choses. Elles sont pas rentrées dans beaucoup de détails, mais elles m'ont montré que leur objet de travail, c'était pas que du riz. La rivière, c'est un écosystème qui n'est plus complètement naturel, qui est aménagé donc par les humains, les humaines, et il faut prendre ça en considération. Il y a beaucoup d'interactions. Le canard picore ce que j'appelais la mauvaise herbe, sans s'attaquer au riz. Hein. Le riz n'est pas appétant, c'est trop siliceux pour les canards. Et les mêmes canards picoraient les insectes transmetteurs du virus. Donc, oulala, fallait que je respecte leur agro-écosystème.
Ça vous a fait radicalement changer de pratique?
Alors, honnêtement, comme j'étais tout jeune, j'ai été remis en cause et ça m'a considérablement aidé dans tous les autres lieux où je suis allé plus tard, de considérer, oui, que l'objet de travail des agriculteurs, c'est pas une plante, c'est pas un sol, c'est pas un troupeau pris séparément, mais c'est des interactions entre différents êtres vivants, végétaux, animaux, domestiques ou sauvages, les champignons, les vers de terre, les bactéries du sol et ce genre de choses, et qu'il fallait prendre en considération toutes ces interactions.
Est-ce que c'est à ce moment-là que vraiment vous vous mettez à étudier ce qu'on appelle aujourd'hui l'agroécologie?
Alors, oui, par certains côtés, parce que j'allais dire étudier, j'ai dit que j'adorais donner des leçons, mais c'est quand même d'abord ces femmes malgaches qui m'ont donné une leçon, hein, qui m'ont recyclé un petit peu. Et du coup, oui, j'ai depuis ce moment-là, j'ai toujours eu le souci un peu de recherche, donc, d'avant de commencer à proposer d'éventuelles solutions avant de suggérer des solutions, c'est déjà de bien comprendre la situation et la complexité des situations vivantes, et y compris l'écosystème, l'écologie et les humains aussi, les rapports sociaux, le pourquoi les gens font comme ils font, de quelle histoire ils ont hérité, les succès, les échecs ou d'autrefois, pourquoi telle technique a été sélectionnée, a fini par s'imposer dans tel endroit du monde. Ça oui, cette démarche de recherche préalable avant de prétendre suggérer des solutions. Oui, ça c'est depuis ce temps-là.
Et ensuite, vous partez dans d'autres pays. De 1970 à 1976, vous êtes expert de la coopération technique au Venezuela, puis au Laos. Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller dans ces pays? Est-ce que, comme pour le Madagascar, vous apprenez beaucoup de choses dans ces pays?
Alors, c'est toujours un peu l'idée, hein, de mettre fin à la faim et à la malnutrition, donc de travailler avec les paysanneries pauvres. Alors, au Venezuela, la situation était très différente. C'était à l'époque un pays démocratique, il y avait une alternance de gouvernement et autres. Et il y avait l'idée de faire une réforme agraire, c'est-à-dire de reprendre les terres accaparées par des grands propriétaires et de les redistribuer à des paysans sans terre ou des paysans minifundistes qui avaient que des tout tout petits lopins. Et au sein donc de ce qu'on appelait l'Institut National Agraire du Venezuela, je travaillais un petit peu avec les paysans qui revendiquaient des terres qu'ils n'avaient pas encore obtenues, c'est-à-dire souvent il y avait l'instruction d'un procès pour redistribuer ce foncier, et avant même de savoir si les paysans avaient gagné, donc ils étaient regroupés pour dénoncer le foncier et avoir accès à ce foncier agricole, et je travaillais à préparer leur projet de paysans producteurs sur les terres en question. Et c'était très intéressant. Évidemment, c'était des familles, des paysans qui avaient l'autoconsommation d'abord, quelques excédents à vendre, mais donc ils étaient souvent sur la résilience, pas prendre trop de risques, diversifier les productions. Si jamais il y a un accident climatique extrême, eh ben ils perdent pas tout. Il y avait des gens qui géraient, qui entrevoyaient leur futur système de production dans le sens assurer la sécurité pour l'alimentation de la famille. Oui. C'était passionnant.
Est-ce que c'est une réforme agraire qui a été un succès, d'après vous ?
Alors, trop peu, parce qu'elle a été trop lente. Mais le Venezuela, donc pays pétrolier, je dirais, l'État avait les moyens d'indemniser donc les propriétaires expropriés. D'ailleurs, certains n'étaient pas mécontents de pouvoir vendre leurs terres et de placer leurs capitaux ailleurs que dans l'agriculture, parce que l'agriculture vénézuélienne n'était pas très très compétitive, pour être honnête. Dans les pays pétroliers, c'est assez fréquent hein, qu'il y ait des gens très riches qui eux-mêmes embauchent des domestiques, qui eux-mêmes font cirer leurs chaussures sur les trottoirs à Caracas. Et parfois, il faut être honnête, le cirer des chaussures sur les trottoirs à Caracas rapportait plus que désherber dans une terre agricole, et c'est pourtant moins pénible. Mais le résultat, c'est que le coût de la force de travail au Venezuela était assez élevé. L'agriculture vénézuélienne n'était plus très compétitive pour des gens qui employaient des salariés. Et du coup, au fond, ces gens étaient parfois bien contents de pouvoir vendre leurs terres et de placer le capital ailleurs que dans l'agriculture. Et surtout, l'agriculture exigeante en travail, ça leur déplaisait un petit peu, quoi.
Et c'est quel type d'agriculture, du coup, qu'il y avait à cette époque-là au Venezuela ? On était déjà sur une agriculture industrielle ou au contraire une agriculture très paysanne ?
Alors, il y avait toute forme d'agriculture. Il y avait des ranches d'élevage que je qualifierais pas d'industriel, mais c'est donc sur d'immenses étendues de l'élevage bovin, des bovins qui pâturent de l'herbe, et après on récolte les bovins, les bœufs au lasso. Donc ça créait pas beaucoup d'emplois, c'est d'ailleurs bien ça le problème. C'était l'une des raisons pour lesquelles redistribuer les terres aux paysans, ben les paysans ils sont prêts, excusez-moi de parler comme ça, à travailler plus pour gagner plus, enfin pour mieux survivre, hein, pour leur bien-être. Et du coup ça fait une agriculture plus intensive en travail, l'agriculture paysanne, alors que cette viande en question, certes c'était quasiment du bio, c'était sans doute riche en oméga 3, mais ça créait pas d'emplois. C'était un vrai problème. Mais il y avait à côté de ça, effectivement, des grandes plantations de canne à sucre, il y avait des plantations de cacao, il y avait des plantations de café, et souvent de la monoculture. Pas forcément hautement moto-mécanisée, enfin la canne à sucre, oui, était moto-mécanisée, mais c'est surtout que le matériel, la mécanisation agricole, la motorisation agricole était une façon de ne pas employer de main-d'œuvre, donc de remplacer des gens par des machines. Et donc, bah effectivement, au Venezuela, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de chômage. Et la réforme agraire a redistribué les terres aux paysans, a été relativement efficace, mais beaucoup trop lente, parce que justement, comme il fallait exproprier, il fallait quand même l'argent, même s'il y avait l'argent du pétrole, pour indemniser les grands propriétaires, et donc elle a été insuffisante.
Ensuite, vous partez au Laos. Qu'est-ce que vous apprenez dans ce pays ?
Alors, au Laos, j'ai beaucoup appris, y compris culturellement. C'est un pays que j'ai beaucoup apprécié, hein, pour être honnête. Le Laos, un pays d'une extrême politesse, d'une extrême courtoisie. Le sourire, alors excusez-moi, cette expression raciste, rire jaune, c'est pas très adéquat, mais c'est parce que c'est pas dans l'ADN, justement, c'est culturel. C'est le fait de ne pas faire en sorte que personne ne perde la face. Le Laos m'a beaucoup appris sur le plan culturel, sur le plan de savoir-vivre. Évidemment, ça m'a aussi beaucoup appris sur le plan de l'agronomie. J'ai retrouvé les rizières. Et puis, plus tardivement, au Laos, j'ai commencé à travailler sur des projets de passage d'une agriculture d'abattis brûlis, où on dénonce un peu les agriculteurs comme abattant la forêt, mettant le feu, cultivant sur les cendres, et puis après, abandonnant les terres. En fait, l'abandon de terre, c'est que la forêt reprenait ses droits. Donc en fait, la forêt renaissait après 2-3 années de culture. Et l'un des défis d'aujourd'hui encore, et sur lequel j'ai un peu travaillé avec, y compris parfois des anciens élèves, enfin j'étais pas tout seul, hein, et évidemment des collègues laotiens, de passer de cette agriculture d'abattis brûlis à de l'agroforêt. Un beau défi qui consiste, quand on pratique encore dans un pays... Le Laos, c'est un pays plutôt sous-peuplé dans une Asie surpeuplée, hein, mais avec l'accroissement démographique, faire en sorte que ce recru forestier spontané puisse être enrichi en espèces à haute valeur ajoutée, en espèces utiles. Ça peut être de la cardamome médicinale, ça peut être du mûrier à papier, ça peut être des produits du bain-joint, ça peut être des produits à haute valeur ajoutée dans des régions reculées, c'est assez astucieux. Non, j'ai beaucoup appris, oui, aussi, au Laos.
Et entre ce que vous avez appris à cette époque-là et aujourd'hui, comment vous avez vu l'agriculture évoluer ?
Alors, tout dépend donc des pays où j'ai travaillé, hein. Dans un assez grand nombre de pays, quand même, ça a été ce qu'on a appelé un peu la révolution verte, c'est-à-dire on s'est inspiré dans les pays du Sud de ce qui s'était passé dans les pays du Nord, en mettant souvent l'accent d'ailleurs plus sur la chimisation que sur la motorisation et la mécanisation, notamment dans les pays d'Asie très densément peuplés. Là, on parle des Philippines, on parle de la Thaïlande, on parle de ces pays-là, où là, pour accroître les rendements à l'hectare, effectivement, on a employé des fortes doses d'engrais de synthèse, des produits pesticides, on va dire herbicides, insecticides, fongicides, et ce genre de choses. Et là, effectivement, on a été capable, ceci étant dit, de produire davantage à l'hectare. Je dirais qu'aujourd'hui, en Inde, il n'y a plus vraiment de famine. Il y a parfois des disettes, il y a des régions où on a faim, des gens mal nourris. C'est plus un problème de pauvreté, puisque l'Inde parvient même à exporter ses céréales. Donc, oui, il y a une certaine efficacité de la révolution verte pour accroître les rendements à l'hectare. Mais aujourd'hui, on découvre quand même que c'est très coûteux. C'est très coûteux, évidemment, en intrants, parce que les engrais, les pesticides, ça coûte cher. C'est coûteux en perte de biodiversité. C'est coûteux parce que, justement, on a trop simplifié les écosystèmes. Et ces produits en seed, ben, éradiquent quand même un certain nombre de d'insectes auxiliaires dans le vivant. Évidemment, on essaie d'éradiquer les ravageurs, mais parfois aussi, ben, on éradique les prédateurs des ravageurs. Donc, il y a des équilibres écologiques qui sont rompus. Et là, il y a beaucoup à faire aujourd'hui pour corriger le tir. Oui.
Et les gens que vous rencontrez aujourd'hui, là, vous dites que vous revenez d'Afrique, se rendent compte de ça, essayent de corriger le tir, se disent que l'agriculture industrielle, du coup, c'est pas la panacée.
La réponse, elle est quand même oui, mais beaucoup des agronomes, je parle pas là des paysans, mais beaucoup des agronomes qui ont été parfois formés, y compris en France, et même peut-être un peu formatés, comme moi je l'avais été quand j'étais jeune. L'idée d'une agriculture qui relève de l'agroécologie scientifique, mais qui ressemble donc à l'agriculture biologique, hein, qui l'agriculture biologique relève très largement de l'agroécologie, ça fait un peu peur, parce que ça paraît un peu le retour en arrière, l'âge de pierre, la bougie, on refuserait à ces pays, alors moi j'ai jamais rien refusé, mais je veux dire, on conseillerait à ces gens de refuser ce qui a été l'apparent progrès des agricultures des pays du Nord, et c'est parfois, il y a quand même cette réserve en disant, mais pourquoi les pays du Sud se priveraient de ce qu'on fait avec succès, disent-ils, les pays du Nord. Et il y a peut-être pas encore cette prise de conscience que dans les pays du Nord, les pays industriels, on est en train d'essayer de revoir la copie, et il y a l'urgence de revoir la copie en France et ailleurs.
Oui, mais il y a quand même une espèce de frustration, en effet, de ces pays à vouloir tendre vers peut-être plus de richesses.
Oui, vous parliez de la République centrafricaine, par exemple. Ben, c'est vrai, il y a encore des gens qui pensent motorisation, mécanisation, ouais. Et sans s'apercevoir que ce serait dans un pays où il y a beaucoup de chômage, où il y a peu d'emplois, que ce serait accélérer encore, remplacer des gens par des machines, les mettre au chômage, ça aggraverait les problèmes. Et c'est un pays qui a beaucoup de problèmes. Alors, il y a aussi, plus précisément en République centrafricaine, le travail, c'était un petit peu de travailler avec des agriculteurs sédentaires, des éleveurs nomades, et de voir comment ils pourraient ensemble établir un nouveau droit foncier qui ferait que les troupeaux de passage n'occasionnent pas de dégâts aux cultures, et peut-être que les agriculteurs qui cherchent en général des terres bien fumées par les bouses, n'installent pas leurs champs trop près des troupeaux et des campements. Enfin, donc il y a des... C'est passionnant, hein, pour être très clair. Et là, dans la région où j'ai travaillé, pour être honnête, c'est la zone ouest de Bangui, enfin c'est Berberati, Gamboula, par là-bas. Ben, je suis assez heureux de voir que après la guerre civile, c'est une région qui aujourd'hui s'est considérablement pacifiée. C'est pas le cas de toutes les zones en République centrafricaine, pour être honnête, mais dans cette région-là, je pense. On est plusieurs à avoir fait un travail qui est quand même assez utile, oui.
Vous avez parlé tout à l'heure de formatage, ça m'intéresse puisque vous avez dû voir les étudiants d'AgroParisTech l'année dernière au moment de la remise des diplômes justement dénoncer cette tentative, on va dire, de formatage de l'école. Vous avez enseigné à AgroParisTech pendant longtemps. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces discours d'étudiants?
Alors, pour être honnête, quand ce petit événement est arrivé, moi, donc, ça fait 10 ans déjà que je suis à la retraite, hein, donc je n'étais pas le jour de la remise des diplômes, mais un de mes collègues, enfin ancien collègue, donc qui lui aussi était à la retraite, m'avait envoyé la scène, le lien pour que je voie, et son commentaire, c'était « Marc, c'est toi le coupable ». Donc, c'était évidemment... Et je pense que oui, il y a quand même, quand ils disent il faut déserter les métiers pour lesquels vous nous avez préparés, il y a la prise de conscience quand même que parfois, parfois, bah, effectivement, les métiers pour lesquels on nous a préparés sont un petit peu donneurs de leçons, formatés, on a les solutions, on va dicter comment il faut faire. Et puis, il disait bifurquer, ça veut dire que bah, si on continue comme aujourd'hui, on va droit dans le mur. Et donc, il faut vraiment, non pas faire marche arrière, hein, donc c'est pas un virage à 180 degrés, hein, mais à 90 degrés, il faut éviter d'aller dans le mur et bifurquer. Et alors les jeunes disent, ça fait le buzz hein, en question, mais je crois, oui, que c'est vraiment le moment dans un établissement comme celui-là, et je pense dans beaucoup d'autres établissements, de revoir un peu complètement la formation pour qu'elle soit plus adaptée aux défis de demain. Et on a l'avantage, la discipline agroécologie, hein, c'est-à-dire la discipline des agroécologues qui essayent de rendre intelligible ces écosystèmes agricoles aménagés par les agriculteurs, des écosystèmes qui sont plus complètement naturels. Hein, la rivière, c'est pas complètement naturel. Hein, on aurait c'est la nature, ce serait un marais. Le bocage en France, ça a été productif, ça a été durable, mais ça a été aménagé par les agriculteurs. Hein, on n'aurait pas aménagé le bocage, que ce soit une forêt, soit une lande. Et donc oui, on peut aménager des écosystèmes agricoles qui sont pas complètement naturels, mais qui par contre, respecte une énorme biodiversité avec tous les services écosystémiques, comme on dit dans notre jargon. Tous ces animaux, parfois sauvages, ces plantes sauvages, concurrentes et autres, peuvent nous rendre des services. Il faut pas vouloir les éradiquer. L'agriculture de demain devra ne plus éradiquer. L'idée, on va devoir vivre avec des ravageurs, on va devoir vivre avec des agents pathogènes, on va devoir vivre avec des herbes concurrentes, mais on va minorer leur prolifération, on va minorer les ravages, on va chercher des variétés tolérantes. Enfin, il y a des très très beaux défis pour l'avenir, pour ces jeunes. Ouais.
Je voudrais rentrer justement dans le détail de ce sujet, hein, d'agriculture biologique et d'agroécologie de façon générale. Là, vous nous dites qu'il ne faut plus éradiquer. Comment vous voyez-vous la lenteur quand même du droit sur le sujet à ne pas interdire ces produits éradicateurs, tous ces produits en IDE? Alors, il y a évidemment le sujet du glyphosate qui a été mis sous le tapis, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Il y a tous les autres pesticides.
Alors il y a beaucoup de raisons à cela. C'est qu'effectivement l'emploi de ces produits en cides, on va dire à titre curatif, ben ça soulage quoi. On voit un champignon pathogène, hop, on met tout de suite un fongicide et les gens pensent que c'est la solution. Pire, on a employé des produits en cides à titre préventif. Alors on cite souvent les néonicotinoïdes, vous savez, c'est un pesticide, un insecticide qui on met en enrobage des semences et du coup au moment de la croissance de la plante, ben la molécule toxique rentre dans la plante, elle rejoint évidemment le pollen, le nectar et quand les abeilles vont commencer à butiner tout ça, et ben elles périssent, elles sont déboussolées, retournent pas dans la ruche, c'est l'effondrement des abeilles. Et là, alors, ça devient gravissime quand, un peu comme pour les antibiotiques dans la viande, hein, on a des volailles, des porcs en espace confiné pour éviter, à titre préventif, l'extension d'une épidémie, ben, on les shoot aux antibiotiques, mais du coup, il y a des antibiotiques dans la viande et du coup, nous développons des antibiorésistances. Alors ça, maintenant, faut arrêter. Hein, c'est de très, très gros dégâts. Mais les gens qui se sont accoutumés à ça, je dirais, il y a presque une addiction à ça rassure de savoir qu'il y a des produits pour. Mais aujourd'hui, on est en train de découvrir des déséquilibres écologiques, donc parfois ça n'a plus les effets escomptés, pour être très honnête. Et puis même, pour être honnête avec les betteraves, par exemple, vous savez que le ministre de l'Agriculture de l'époque avait réautorisé les néonicotinoïdes, comme de nouveau on réautorise l'emploi du glyphosate, ce fameux désherbant, alors qu'on sait très bien les dégâts occasionnés par ces produits, le néonicotinoïde, ça fait le plus grand tort aux abeilles. Le glyphosate, c'est un désherbant et c'est le produit de sa dégradation, un métabolite, donc comme on dit, qui est toxique, qui est cancérigène. Et ça veut dire que pour la jeune génération exposée à ça régulièrement, soit dans l'eau, soit dans l'alimentation depuis in utero jusqu'à la fin de la croissance, à cette jeune génération, lui prédit une espérance de vie en bonne santé, peut-être d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération, moi qui ai des cheveux blancs, hein, c'est-à-dire Alzheimer, Parkinson, cancer du sein, cancer de la prostate, ces maladies qui étaient considérées comme des maladies du vieillissement vont intervenir plus précocement. Et c'est évidemment une prédiction scientifique, on peut pas dire c'est statistiquement avéré, il faudra attendre 80-100 ans pour dire ça, mais néanmoins c'est déjà démontré. Et donc oui, il y a urgence à interdire ces produits, et néanmoins, les gouvernements, sans arrêt, essaient de mettre des dérogations. Ben, moi, j'ai vu dans certaines régions où les préfets ont le droit de donner des dérogations, on ne devrait pas épandre de pesticides par la voie aérienne, et néanmoins, j'ai vu des préfets donner des dérogations parce qu'il y a urgence, parce que ceci, parce que cela. Et oui, donc il y a une addiction par certains côtés des agriculteurs, un manque de courage politique, je pense, des autorités en question, et il y a aussi la pression des lobbies, hein, parce qu'il y a des gens qui veulent vendre ces produits en seed, c'est lucratif pour certains, hein. Mais oui, non, il y a urgence, je pense, et c'est à la société civile un peu. Alors c'est vrai que le consommateur peut contribuer à changer les choses. Hein, acheter un produit bio, par exemple, c'est un peu plus cher, par contre, hein, parce que l'agriculture biologique est artisanale. Mais c'est vrai que le consommateur, s'il achète davantage le produit labellisé bio, vous savez que c'est labellisé, donc il y a un logo, mais ça veut dire qu'il y a une certification par une tierce partie. Ben, il y a moins de perturbateurs endocrinants dans les fruits et légumes, il y a moins d'antibiotiques dans la viande, et donc il y a des gens qui sont prêts à acheter ça plus cher. Le problème, c'est, ce serait scandaleux que les produits bio soient réservés aux couches aisées, aux bourgeois bohèmes, comme j'ai coutume de dire, et que les perturbateurs endocriniens, les antibiotiques dans la viande, soient réservés aux couches modestes. Donc, donc là, il y a au gouvernement de dire, écoutez, l'agriculture biologique, elle est plus artisanale, elle est plus soignée, plus bichonnée, etc., elle est plus exigeante en travail, plus intensive en emploi, ce qui est loin d'être idiot. On va rémunérer les agriculteurs pour leurs services environnementaux. Quand ils séquestrent du carbone dans le sol, ça atténue la teneur de gaz carbonique de l'atmosphère, l'humus des sols, ça préserve les sols de l'érosion, c'est d'intérêt général, il y a moins d'inondations dans la vallée. Je rémunère les agriculteurs qui pratiquent les techniques susceptibles de séquestrer du carbone dans l'humus des sols. Vous remettez des légumineuses, vous avez des trèfles, des luzernes, des sainfoins, des lotiers, des pois chiches, des lentilles, plus de fibres, moins de cancer du côlon. Et ça nous évite des importations de soja en provenance des Amériques, ça nous évite des importations d'engrais azotés de synthèse avec du gaz naturel, relus, enfin, je veux dire, ils remettent des légumineuses dans nos rotations, nous seulement, on est déficitaire pour les deux tiers. Écoutez, je demande aux agriculteurs, à quel prix êtes-vous prêt à faire ça? Je vous rémunère, c'est un service d'intérêt général. Et puis, des infrastructures écologiques, remettre des haies, héberger des coccinelles pour neutraliser les pucerons, héberger des pollinisateurs, c'est d'intérêt général. Écoutez, à quel prix êtes-vous prêt à nous remettre des haies? Et je vous paye. Et le contribuable, puisque c'est un service d'intérêt général, peut contribuer donc à la rémunération de ces services d'intérêt général. Ça pourrait être les subventions de la politique agricole commune qui aujourd'hui sont distribuées en proportion des surfaces. Là, ce serait plus en proportion des surfaces, ce serait en relation avec le travail.
Là, vous nous avez donné vraiment énormément de pistes pour une transition alimentaire. Ce qui est dingue, c'est qu'en effet, on sait ça, et on sait ça quand même maintenant depuis de nombreuses années, mais que ça ne bouge pas. Et que même quand la Cour de justice de l'Union européenne vient dire à la France, il faut arrêter d'autoriser les néonicotinoïdes, on a des agriculteurs dans la rue qui sont en défaveur de cette mesure, qui disent non, on en a besoin pour nos betteraves. Est-ce qu'on peut les comprendre? Et comment on fait pour accompagner ces gens-là à l'arrêt de ces produits?
Alors, on peut comprendre qu'ils ont été trompés. Mais soyons clairs, moi, les premières centrales sucrières qui ont fermé là dans l'heure, c'était la filière avec néonicotinoïdes. C'est-à-dire que notre betterave à sucre, aujourd'hui, même si je parle de l'intérêt immédiat et financier du betteravier, ce n'est pas la betterave dans les rotations courtes d'aujourd'hui avec des semences enrobées de néonicotinoïdes, c'est pas ça qui est rentable. D'ores et déjà, on sait que cette betterave ne peut pas être compétitive dans une petite ferme de, on va dire, 300-500 hectares. C'est déjà assez grand, hein, quand même, en Picardie, hein, faut être honnête. Mais en concurrence avec 40 000 hectares au Brésil, je suis désolé, sous le soleil brésilien, non, cette betterave ne peut pas être compétitive. Alors, la betterave est une excellente tête de rotation, c'est même là où on peut épandre le fumier. Et donc, oui, rediversifier les systèmes de culture dans les fermes, mettre des rotations longues, c'est-à-dire que la betterave ne réapparaît sur le même sol qu'une année tous les 9 ans, on va dire, et bien effectivement, c'est des solutions qui permettent d'éviter, et éventuellement, quand une année sur 10, hein, apparaît l'insecte qui transmet le virus de la jaunisse, il y a peu de dégâts occasionnés parce que justement, on a un écosystème extrêmement diversifié. Donc, y compris, on peut convaincre ces gens que de leur point de vue strictement financier, il faut cultiver de la betterave, mais dans un système beaucoup plus diversifié. Ce sera beaucoup plus rentable, beaucoup plus résilient. Quand arrive un accident phytosanitaire, quand arrive un accident climatique, le revenu ne s'effondre pas du jour au lendemain.
Oui, parce que c'est aussi le sujet du climat. C'est que, en effet, il faut aussi, pour ces agriculteurs, être plus résilient aux sécheresses, aux inondations et autres. Vous avez écrit de nombreux livres, j'en ai parlé en introduction. Pour vous, l'agriculture biologique, dans vos ouvrages, permettrait de mieux nourrir le monde tant en quantité qu'en qualité. Que répondez-vous à ceux qui disent que l'agriculture biologique aujourd'hui n'est pas assez productive, qu'elle n'est pas capable de nourrir 10 milliards de personnes?
Alors, je leur réponds qu'ils sont dans l'erreur, mais en même temps, il est clair qu'en France, où notre agriculture industrielle a un petit peu endommagé les agroécosystèmes, c'est vrai que le passage d'une agriculture industrielle hautement chimisée à l'agriculture biologique se traduit par une baisse de rendement à l'hectare. C'est-à-dire que il est difficile avec l'agriculture biologique d'avoir un blé à 90 quintaux à l'hectare, c'est en clair. On aura plutôt un blé à 50 quintaux, donc c'est quand même sensiblement moindre. Mais dans un pays excédentaire en blé comme la France, faut-il toujours accroître les rendements à l'hectare au prix d'un coût considérable? C'est-à-dire qu'on détruit des engrais, on détruit des pesticides, on brûle des carburants, on use des tracteurs. En fait, pour ce qui est d'un pays comme la France excédentaire dans certains produits, la poudre de lait, les céréales, éventuellement le sucre et autres, ce n'est pas le rendement à l'hectare qui importe d'accroître, mais la valeur ajoutée, la différence entre ce produit brut et ce qu'on a détruit. La valeur ajoutée, c'est quand même le revenu de l'agriculteur, avec c'est aussi après le loyer payé aux propriétaires, les impôts payés à l'État, les intérêts payés à la banque. Mais pour le revenu national net, c'est-à-dire pour la contribution à la richesse, revenu national net des Français, c'est pas le rendement à l'hectare qu'il faut accroître, mais la valeur ajoutée. Et c'est en détruisant moins d'intrants, et puis en détruisant moins d'humus, en détruisant moins d'abeilles, en détruisant moins de coccinelles, bien évidemment qu'on va accroître la valeur ajoutée à l'hectare. Et donc en France, on peut s'autoriser à produire moins, mais mieux, en qualité, et y compris d'un point de vue monétaire, la valeur ajoutée est supérieure. Donc, allons-y. Et dans les pays déficitaires du Sud, là par contre, l'enjeu, c'est effectivement d'accroître conjointement le produit brut, et au moindre coût, au moins avec le moindre destruction possible, et donc le produit brut et la valeur ajoutée, conjointement. Alors il faut, dans les pays du Sud déficitaires, savoir qu'il existe des solutions. Moi, je connais des champs, j'ai vu et je montre souvent en photo des champs de mil et de sorgho sous des parcs de Federbia albida, on disait Acacia albida autrefois, une légumineuse. Mais je peux vous assurer, le rendement, il est 3 fois supérieur sous la frondaison de l'arbre que là où il n'y a pas d'arbre.
Ouais.
Et donc, commencer à ce que certains appellent l'agroforesterie, la culture sous parc arboré, eh bien, ça peut être une solution pour accroître les rendements et accroître considérablement la valeur ajoutée parce que ça se fait sans recours à des intrants. C'est que cette acacia est une légumineuse, fixe l'azote de l'air, ça fait, quand la feuille morte tombe à terre, il y a le carbone du gaz carbonique, le carbone de la photosynthèse, il y a l'azote de l'air, un bon dosage carbone-azote, ça fabrique de l'humus, ça retient l'eau, on est dans les zones semi-arides, c'est redoutablement efficace. Donc on n'est pas sans solution dans les pays du Sud pour accroître et les rendements et autres. Et puis il faut savoir aussi que s'il y a encore de la faim et de la malnutrition dans le monde, c'est pas qu'on manque de nourriture sur le marché mondial. Il y a pléthore de nourriture sur le marché mondial. Pour nourrir correctement un habitant, peut-être avec un peu moins de viande que certains d'entre nous en France, mais sans carence nutritionnelle et avec des protéines animales, il faut produire de l'ordre de 200 kilos de céréales par habitant et par an. Et la production mondiale, elle est déjà en moyenne, ça dépend des années, de 330 kilos de céréales ou son équivalent, pommes de terre, manioc, igname. Donc il y a pléthore de nourriture, mais pourquoi donc y a-t-il des gens qui ont faim? Eh bien c'est la pauvreté. C'est-à-dire que il y a beaucoup de gaspillage, il y a des riches qui achètent, ils mettent dans le frigo, la date de péremption est passée, et ben ils jettent, et ça a néanmoins été acheté, et ça a échappé à des pauvres. Il y a la nourriture qui échappe à des pauvres, et qui a servi aussi, c'était pas, les tomates n'étaient pas bien calibrées, la grande surface a bazardé tout ça. Ça s'appelle le gaspillage, et il y a beaucoup de gaspillage de gens relativement riches qui achètent et remettent ça à la poubelle. Mais c'est aussi de l'alimentation. Si vous êtes au Brésil, le Brésilien qui désherbait, qui a été remplacé par un désherbant, il a perdu son travail, il se retrouve dans un bidonville. Dans les bidonvilles, il n'a pas d'emploi, donc il n'a pas de revenus. Et ben le Brésilien, là, celui-là, ne peut pas acheter du soja qui nourrit nos cochons. Parce que nos cochons sont plus riches que des pauvres Brésiliens. Les usines d'aliments du bétail sont plus solvables que les pauvres Brésiliens. Et donc oui, il y a de l'excédent de nourriture qui échappe à des paysans pauvres, qui échappe à des populations urbaines pauvres, et qui sert à nourrir des animaux, parfois en surnombre, quand même dans ce monde. Et y compris, n'oublions pas, il y a aussi du maïs qui sert à fabriquer de l'éthanol, il y a du colza qui sert à fabriquer de l'agrodiesel, et donc il y a de la nourriture qui échappe à des pauvres, parce qu'il faut donner à boire à nos voitures, il faut donner à boire à nos avions, il y a des gens riches évidemment qui roulent en voiture, voyagent en avion, mais c'est les écarts de revenus à l'échelle mondiale qui sont la cause de la pauvreté, et c'est vrai aussi dans certains pays qui produisent du café, du cacao, on leur a dit spécialiser vos agricultures en fonction des avantages comparatif, et ben ils découvrent qu'avec le revenu du café et du cacao, ils peuvent pas acheter sur le marché mondial la nourriture qu'ils ne produisent plus chez eux. Et pourtant, cette nourriture qui est produite, par exemple, nos excédents de céréales, sont vendus à bas prix, hein, parce que nous, c'est hautement moto-mécanisé et autres. Et ben, malgré ça, la pauvreté là-bas fait qu'ils ne parviennent même pas à l'acheter. Et donc, oui, il faut d'abord redistribuer les revenus. Mais sachez que dans les pays du Sud, déficitaires en nourriture, on peut d'emblée accroître les rendements et accroître la valeur ajoutée avec des techniques inspirées de l'agroécologie. Oui, c'est parfaitement possible.
Donc, le sujet, c'est l'inégalité. Mais c'est aussi, en effet, remettre l'alimentation dans son rôle initial, c'est-à-dire nourrir le monde et pas nourrir les animaux particulièrement. Est-ce que du coup, il faut forcément, j'imagine, manger moins de murde ?
Alors, c'est souvent recommandé de manger moins de viande, pour de multiples raisons d'ailleurs. L'une des raisons qui me préoccupe, vous me demandiez, moi, c'est comment je conçois mes repas et l'équilibre. Ben, effectivement, d'abord, manger de la viande, avec des animaux qui ont été shootés aux antibiotiques, si on peut éviter, c'est quand même plutôt bien. Certes, on produit beaucoup de viande ainsi, mais c'est pas génial. Et puis, les viandes rouges, c'est aussi souvent riche en acides gras saturés, donc c'est les maladies cardiovasculaires et ce genre de choses. Donc, je pense que pour des raisons diététiques et nutritionnelles, manger modérément de la viande, ça peut être largement conseillé. Et puis, évidemment, vaut mieux de la viande riche en oméga-3, de la viande bio, sans ce genre de choses. Et c'est vrai aussi, la deuxième chose, c'est que oui, les animaux mangent de la nourriture qui échappe à des paysans pauvres, mais je voudrais pas que cette idée-là, en mangeant moins de viande, la question des pauvres sera résolue. Je voudrais pas qu'on oublie quand même de lutter contre la pauvreté. C'est-à-dire, c'est pas forcément en changeant notre mode de consommation que nécessairement le pauvre Brésilien pourra manger du soja. Il faut quand même qu'ils trouvent un emploi. Il faut peut-être pas remplacer les gens qui désherbaient par du désherbant. Donc, je suis très prudent là-dessus. L'élevage est souvent aussi dénoncé pour sa contribution au réchauffement climatique. Là, c'est alors à la fois les cochons et les volailles nourris avec du soja brésilien. Mais du coup, on a déforesté la forêt brésilienne. Donc, atteinte à la biodiversité et contribution évidemment, à l'effet de serre, dégagement de gaz carbonique, cette déforestation. Alors là, effectivement, si on peut éviter ça, ce serait quand même pas mal. Et puis, pour ce qui est des ruminants, la fermentation dans le rumen, le rot des vaches émet du méthane, un gaz 28 fois plus réchauffant que le gaz carbonique. Et donc, ça contribue effectivement, le rumen et les ruminants, à l'effet de serre. Mais même là, il faut être prudent. Parce que quand je dis qu'il faudrait remettre de l'élevage de ruminants, des brebis par exemple dans le bassin parisien, comme ça il y aurait un débouché pour la luzerne, il y aurait la paille pour faire la litière, et puis le fumier servirait à fertiliser les betteraves, et donc remettre de l'élevage de ruminants, notamment des brebis, alors ça peut être brebis, lait, et puis transformation laitière et en circuit court, il y a des gens qui font ça, eh bien on me dit l'Île-de-France va contribuer davantage au réchauffement climatique. Mais c'est pas si vrai. Parce que si ces brebis sont élevées avec des fourrages, et dans ces fourrages des légumineuses, qui nous évitent, comme ça va fertiliser le sol en azote pour les cultures qui vont suivre dans la rotation, si la fertilisation azotée est biologique, on emploiera moins d'engrais azotés de synthèse, moins d'ammonitrate, moins de sulfate d'ammonium, moins d'urée, fabriqué avec du gaz naturel russe, et quand on épense ces engrais azotés de synthèse, très émetteurs de protoxyde d'azote, 300 fois plus réchauffant que le gaz carbonique et l'unité de poids ou de volume. Donc, il nous faut être très clair. Certes, on émet plus de méthane, mais on émet moins de protoxyde d'azote. Remettre de l'élevage de ruminants en Île-de-France, dans le bassin parisien, c'est pas du tout idiot. Ça peut même contribuer à atténuer ce réchauffement climatique. Il faut faire les calculs, pas seulement par filière, mais l'agroécologie, justement, à l'échelle des territoires, à l'échelle des agroécosystèmes, il faut refaire les calculs beaucoup plus complexes, bien évidemment, mais c'est pas si évident de dire l'élevage de ruminants contribue au réchauffement climatique. Moi, en France, je suis plutôt pour qu'on mette moins d'animaux en Bretagne et qu'on remette les animaux en Bretagne sur la paille, le fumier, le bien-être animal, et puis du coup, l'azote n'ira pas fertiliser les algues vertes, mais servira au fumier et ça fertilisera les sols. En question. Donc, moins d'animaux en Bretagne, plus dans le bassin parisien. Voilà. Après, il y a la question du bien-être animal, qui est une question on ne peut plus légitime. Il y a certaines conditions d'abattage, de transport et d'élevage qui sont à revoir, ça, à coup sûr. Mais de là à dire, comme les véganes, que toute forme d'élevage, d'esclavage que Homo sapiens, avec ses capacités cognitives, a commencé à vouloir domestiquer le monde vivant, le mettre sous ses ordres. Et du coup, c'est du spécisme, c'est l'équivalent du racisme. Hein. Telle race en aurait un mépris à l'égard de telle autre, et Homo sapiens aurait du mépris à l'égard des autres espèces. Alors là, j'invite à la plus extrême prudence. Ça, c'est le mouvement végan est plus un mouvement philosophique. Végétalien, par contre, je déconseille. Hein. Vitamine B12, vitamine D, ça peut être déséquilibré. Végétarien, oui, on peut manger équilibré, mais les végétariens mangent quand même encore quelques œufs et boivent un peu de lait. Mais végétalien, c'est pas très bon pour la santé. Et souvent, les véganes donc sont végétaliens puisqu'ils s'interdisent même de porter un vêtement en laine hein, ou en cuir au nom du fait que l'élevage, c'est d'emblée de l'esclavage et ça contribue au mal-être animal. Moi, je mes souvenirs à Madagascar ou au Laos, les canards domestiques dans la rivière qui glanent les grains de riz au fond de la rivière, qui mangent les escargots ravageurs du riz et autres. Ces canards domestiques, moi, me paraissaient... Enfin, je veux dire, je sais pas ce que les canards ont dit aux véganes, mais moi, mon intuition, ces canards, je les trouve bien soignés, sans doute bien plus heureux que le canard sauvage qui est obligé de faire des kilomètres pour trouver sa nourriture. Je crois que là, il nous faut revoir un peu de biologie. Attention, attention. Oui, le bien-être animal est une question on ne peut plus légitime, mais moi, je connais quand même des animaux domestiques, bien soignés, bien bichonnés, peut-être bien plus heureux que leurs ancêtres sauvages.
On l'entend, vous n'êtes pas convaincu par le mouvement antispéciste. Je voudrais parler maintenant d'agroécologie. Quand vous avez écrit en 2019 « L'agroécologie peut nous sauver » aux éditions Actes Sud. C'est quoi votre définition de l'agroécologie et surtout, quelle est la différence entre agriculture biologique et agroécologie ?
Oui, c'est important hein, que l'agroécologie n'est pas une pratique agricole qui serait opposable à l'agriculture biologique, à l'agriculture de conservation, à l'agriculture, à la permaculture, à l'agroforesterie, à l'agriculture régénératrice. L'agroécologie, c'est plus une source d'inspiration pour tous ceux qui veulent promouvoir et mettre en œuvre des formes d'agriculture alternatives conformes à l'intérêt général. Et cette source d'inspiration, l'agroécologie, alors, c'est un terme polysémique hein, qui a déjà plusieurs sens. Vous auriez interviewé Pierre Rabhi autrefois et vous auriez dit c'est une éthique de vie. C'est-à-dire, il y a quand même une idée de valeur à partager, à savoir qu'il est difficile d'être humaniste sans être terriste, je dirais d'une certaine façon, sans être respectueux de la terre et de toutes ses interactions. C'est un même destin, hein, une seule santé, on dit souvent. Oui. Donc, l'agroécologie, de ce point de vue-là, il y a une espèce de philosophie, d'inspiration, mais c'est aussi une inspiration qui a des fondements scientifiques et l'agroécologie peut être présentée comme, excusez-moi de parler comme ça, la discipline scientifique des agroécologues. Ces agroécologues qui cherchent à rendre intelligible la complexité des écosystèmes agricoles aménagés par les agriculteurs. Ce petit cours que m'ont fait les femmes malgaches, de dire, vous savez, la rivière, c'est un écosystème d'une incroyable complexité, même si on l'a simplifié pour produire du riz, ça reste quand même d'une incroyable complexité, et y compris, ces femmes m'avaient pas expliqué qu'il y avait des cyanobactéries qui fixaient l'azote de l'air, fertilisaient l'azote en riz, etc. Mais voilà, l'agroécologie, ça permet de voir les fondements scientifiques, et de savoir les différentes formes d'agriculture, est-ce qu'elles relèvent donc plus ou moins de cette agroécologie scientifique, et est-ce que ça peut être conjointement productif, durable, pas destructif, respectueux de l'environnement, contribuer à atténuer le réchauffement climatique, contribuer aussi à s'adapter au réchauffement climatique et autres. Alors l'agroécologie est une source d'inspiration qui a des fondements scientifiques et peut aider considérablement les agriculteurs pour faire des bons choix. Et l'agriculture biologique, soyons clairs, relève très largement de l'agroécologie, même si elle peut encore progresser, parce qu'un pesticide naturel, ça reste encore un pesticide. Donc, toutes les formes d'agriculture, y compris l'agriculture biologique, dont l'avantage quand même, c'est clair, c'est d'avoir un logo, un label, une certification par une tierce partie, ça inspire confiance, et à juste titre d'ailleurs, pour qu'on ait une alimentation saine. Mais l'agriculture biologique relève très largement de l'agroécologie. Ce qu'on appelle l'agriculture de conservation, vous savez, ces agriculteurs qui essayent de trop labourer, parce que ça fait du tort aux vers de terre, qui se retrouvent comme ça en pleine journée au soleil, ça leur fait le plus grand tort aux vers de terre, eh bien, eux aussi, ça relève très largement de l'agroécologie, avec quand même un gros défaut, c'est que souvent, beaucoup d'entre eux, pas tous, hein, le ver de terre, ça creuse une galerie, ça permet à l'eau de s'infiltrer. Le ver de terre, la nuit, va à la surface du sol, ça digère les feuilles mortes. Et puis, dès que le jour se lève, hop, ça rentre dans le terre, ça creuse une galerie, ça favorise l'infiltration de l'eau, ça digère les matières organiques, ça favorise la formation d'humus. Donc, cette agriculture de conservation relève assez largement de l'agroécologie. Mais ce que fait pas le ver de terre, c'est de lutter contre une herbe concurrente, ce que j'appelais autrefois la mauvaise herbe. Et du coup, il y a encore des gens qui mettent du glyphosate. Et là, très honnêtement, là, il faut vite arrêter ça, parce que l'AMPA est un cancérigène, pas statistiquement avéré, mais démontré, prouvé, et là, il y a urgence. Mais du coup, oui, toutes ces formes d'agriculture peuvent encore progresser. Et moi, je connais des agriculteurs qui parviennent à concilier agriculture de conservation et bio. Ils sauvent les vers de terre. Alors, je raconte pas, c'est des rotations longues. Il y a du chanvre, pas du chanvre récréatif, hein, ne dites pas ça, hein, mais du chanvre industriel pour l'isolation thermique des bâtiments. L'herbe adventice, elle commence à pousser, mais le chanvre pousse tellement vite, tu fais un tel ombrage comme une forêt dense. Ombrage, l'herbe n'arrive même pas à fleurir, elle monte pas en graines et ça prolifère pas. Donc oui, on n'est pas sans technique permettant de concilier toutes ces choses-là. Et l'agroécologie, donc scientifique, bah, ça aide à raisonner ce genre de nouvelles pratiques. Oui.
Donc ce que j'entends en tout cas, c'est qu'il n'y a pas un cahier des charges à l'agroécologie, c'est plus une philosophie, une façon de voir la nature et l'agriculture comme se passant 100% des intrants.
Alors, l'agriculture biologique, oui, voilà, l'idée, c'est de se passer des intrants, alors surtout les produits encides, hein, puis les produits de synthèse. J'ai pas dit le plus grand bien, des engrais azotés de synthèse, coûteux en gaz naturel russe et émetteurs de protoxyde d'azote, hein, soyons clairs. Mais oui, l'agroécologie permet effectivement de faire, alors, un usage très intensif, excusez-moi de parler comme ça, à l'hectare, de ressources naturelles renouvelables ou pléthoriques. Mais l'idée qu'il faudrait pour nourrir le monde, de promouvoir des formes d'agriculture extensive qui exigeraient toujours de plus grandes extensions. C'est pas grave, on va déforester la forêt amazonienne, la déforêt congolaise, la forêt de Bornéo, ou même en France, élargir les surfaces cultivées, c'est pas le cas aujourd'hui, hein, mais aux dépens des derniers parcs naturels, ce serait une grave erreur. Donc l'idée qu'il faille promouvoir une agriculture intensive en valeur ajoutée à l'hectare peut être une idée juste, mais par contre, on va faire un usage intensif de ce qui est renouvelable, de ce qui est pléthorique, de ce qui est abondant, de ce qui est gratuit.
Donc l'eau, le sol, l'humus.
Oui, vous savez qu'on a besoin dans notre alimentation de kilocalories, on a besoin d'énergie. Et c'est l'énergie qu'on dépense au travail, dans les loisirs, les battements du cœur, eh bien ça nous vient de l'alimentation. Mais d'où vient cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation? Ça nous vient du soleil. Et je sais pas, mais on m'a dit qu'il y avait pas de pénurie annoncée de rayons solaires avant des milliards d'années. Donc je vous suggère qu'on fasse usage intensif à l'hectare de ces rayons du soleil, que tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes, capables de transformer, la feuille verte intercepte l'énergie solaire, transforme ça en énergie alimentaire, on appelle ça photosynthèse, et allons-y. Mais ça veut dire couverture végétale la plus totale possible, la plus permanente possible, hein, hiver, printemps, été, automne. Alors sous la neige, j'en conviens, le soleil rejoindra pas la feuille verte, mais c'est ça qui est de moi. Cette énergie, vous savez, c'est l'amidon, c'est les glucides, c'est les lipides, c'est les molécules carbonées. La plante a impérativement besoin de trouver du carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Alors je vous pose la question. Y a-t-il pénurie annoncée de gaz carbonique dans l'atmosphère? Je vous vois sourire, je crois comprendre que c'est un gaz à effet de serre. Alors du coup, si on pouvait en faire un usage intensif, la plante va intercepter ce gaz carbonique, va en prendre le carbone, va libérer l'oxygène. Figurez-vous, ça n'a jamais fait mal à nos poumons, l'oxygène. Et avec ce carbone, la plante va fabriquer des lipides, des glucides, de la paille, des racines. Et si ça se décompose bien après récolte, séquestrer du carbone dans les sols et fabriquer de l'humus, alors je suis pour l'agriculture intensive. Si c'est ça l'agriculture intensive, faire l'usage intensif de ce qui est pléthorique ou renouvelable comme les rayons du soleil, je suis vraiment pour, quoi. Mais même les protéines, vous savez, tous les constituants du corps humain, la peau, les os, les cheveux, les ongles, les muscles, tout ça c'est fait de protéines, il faut en ingurgiter tous les jours. Et ça c'est des particules, des molécules azotées. Où la plante trouve-t-elle l'azote? Dans l'air. 79% d'azote dans l'air que vous respirez, vous et moi. Il n'y a pas de pénurie avant des millénaires. Ben faisons un usage intensif de l'azote de l'air. Le vrai petit problème, là, je vous cache pas, c'est que c'est coûteux en énergie de rajouter de l'azote à un hydrate de carbone et fabriquer une protéine. Et du coup, quand on veut qu'un blé soit riche en protéines, on lui apporte un engrais azoté de synthèse, coûteux en énergie fossile, c'est pas très astucieux. Mais l'alternative, on les connaît. C'est ce que j'appelais les légumineuses. Le trèfle, la luzerne, le sainfoin, le lotier, la veisse, la facélie. C'est aussi la lentille, le haricot, le petit pois. C'est aussi le soja, le lupin, la févrole. Enfin, dans aucun pays du monde, l'arachide au Sénégal, la dolique à Madagascar, on ne manque de plantes de l'ordre des légumineuses. C'est la protéine est fabriquée par des petits microbes qui s'incrustent dans la racine de la légumineuse, qui commencent à manger les glucides, donc l'énergie photosynthétisée par la plante, ils s'en nourrissent, ils prolifèrent, interceptent l'azote de l'air, fabriquent la protéine et remettent ça à la légumineuse. Ce qui fait qu'on a des légumineuses riches en protéines végétales, que ce soit ensuite pour l'alimentation humaine ou animale, et fabriquées avec quoi? Avec de l'énergie solaire, puisque c'est les glucides de la photosynthèse qui ont permis de synthétiser ça. Ben voilà, mettons des légumineuses. En France, pourquoi est-on déficitaire pour les deux tiers en protéagineux, et est-ce qu'on pourrait pas, pourquoi faut-il à tout prix importer du soja, du tourteau de soja en provenance du Brésil, d'Argentine et des États-Unis pour nourrir des cochons en surnombre qui urinent l'azote, ça fertilise les algues vertes sur le littoral breton. Aller chercher de l'azote dans l'air brésilien, l'importer sous forme de soja pour nourrir des animaux en surnombre qu'on ne met plus sur la paille, et quand ça urine, ça fabrique pas du fumier, c'est du lisier, ça s'écoule vers la mer et ça nous fertilise les algues vertes, n'appelez pas ça circuit court. Et quand dans le bassin parisien, comme il n'y a plus l'urine, on met de l'urée, et l'urée c'est un fertilisant azoté de synthèse fabriqué avec du gaz naturel russe, bah écoutez, c'est pas ça circuit court. Si vous pouviez mettre des lentillons entre vos rangées de blé, ben je vais vous dire, vous aurez le blé carboné, vous avez le lentillon azoté. Après récolte, les microbes qui trouvent un bon dosage de carbone avec le blé, un bon dosage d'azote avec le lentillon, ça peut être la févrole hein, aussi, et ben, ils arrivent à fabriquer de l'humus sans même qu'on ait à mettre du fumier. Et pourtant, je vous cache pas, je suis un ardent défenseur du fumier, que l'azote de l'urine rejoigne le carbone de la paille et on va fertiliser les autres, fabriquer de l'humus. Enfin, on ne manque pas de solutions techniques quoi pour ça. Donc oui, l'agroécologie, c'est vraiment ce qui nous permet de raisonner tout ça. C'est la gestion de l'eau pour laquelle il y a le plus de difficultés. Parce que je disais tout à l'heure, la plante doit intercepter le gaz carbonique. La plante va en prendre le carbone, mais il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante. Mmh. Et évidemment, ce gaz carbonique rentre dans la plante par des petits trous, des orifices qu'on appelle stomates dans notre jargon, mais c'est les petits trous par lesquels la plante transpire. Et la plante elle est un peu comme nous, hein, plus il fait chaud, plus il fait sec, plus il y a du vent, plus elle transpire. Mais nous, il nous faut boire tout de suite s'il fait chaud, qu'il y a du vent, parce que sinon on se déshydrate, on attrape de la fièvre. Et la plante, elle a un avantage sur nous, c'est que si elle trouve momentanément pas assez d'eau à boire dans le sol, elle arrête de transpirer, donc elle ferme les orifices par lesquels elle transpire. Sauf que quand elle arrête de transpirer, elle ferme les orifices par lesquels le gaz carbonique rentrait dans la plante et l'oxygène ressortait. Alors ça, donc un beau champ de maïs, par exemple, ben, l'hiver, si les rayons du soleil tombent sur le sol à nu, c'est pas très génial. Avril, mai, ça y est, on a semé le maïs, mais il y a encore des rayons du soleil qui tombent entre les rangées de maïs, c'est pas génial. Et quand au mois d'août, ça y est, enfin, le maïs commence à recouvrir la presque totalité de la parcelle, ben oui, mais il pleut pas au mois d'août. Ouais. Et comme il pleut pas, certes, les rayons du soleil tombent sur une feuille verte, mais la feuille ne transpire plus parce qu'il n'y a pas assez d'eau à boire. La plante a fermé les orifices par lesquels elle transpirait. Elle a fermé les orifices par lesquels le gaz carbonique pouvait rentrer. Ça sert à rien. Ça s'appelle avoir tout faux. Donc, c'est pas que le maïs exige beaucoup d'eau. À la tonne produite de céréales, ça exige moins d'eau qu'un blé. Mais ça l'exige au mauvais moment. Pourquoi avoir introduit dans des pays tempérés comme le nôtre, autant de maïs, plantes tropicales, sachant que sous les tropiques, la saison des pluies, c'est la saison chaude. Chez nous, la saison chaude, c'est la saison sèche. Donc, on a cette agriculture industrielle a commis quand même beaucoup d'erreurs. J'ai rien contre le maïs, soyons clairs. Quelques plantes d'été, ça peut avoir un rôle, mais pas que des plantes d'été, quoi. Il faut absolument qu'il y ait, dans des rotations longues, des plantes semées à l'automne, semées au printemps et autres, mais à des cycles différents. Mais voilà, la monoculture de maïs dans certaines régions fut une très très grave erreur.
On entend, il y a quand même un enjeu de sécheresse qui est crucial. Et là, en ce moment, la France entre d'ores et déjà dans une sécheresse alors qu'on est le 1er mars aujourd'hui, jour de l'enregistrement. Comment vous appréhendez cet avenir qui est quand même assez sombre côté sécheresse?
Oui, c'est assez sombre. Ça nous avait été prédit. Alors je suis un peu furieux, hein, parce que le premier rapport du groupement interétatique d'études du climat, enfin c'est pas des experts qui étudient le climat, le premier rapport a été publié il y a 32-33 ans. C'était déjà une synthèse de publications scientifiques bien avant, c'est-à-dire ça fait bien plus de 30 ans que l'on savait cela, à la fois un réchauffement climatique global et une fréquence et une intensité accrue des accidents climatiques extrêmes. Ça peut être des inondations, mais ça peut être effectivement des canicules et des sécheresses. Donc cette eau de pluie va de plus en plus nous être réparti de façon chaotique, à la fois dans l'espace, il va beaucoup pleuvoir ici et juste à côté il fera sec, et d'une année à l'autre, dans le temps, ça va être jamais se répéter à l'identique, ça va être donc beaucoup plus aléatoire, et donc oui, il y a urgence pour être très clair, dans l'agriculture moderne de demain, hein, celle qui sera pas industrielle mais qui sera artisanale et respectueuse de l'environnement, de faire un usage intensif, encore une fois, à l'hectare de cette eau de pluie, parce que c'est celle-là qui nous est donnée gratuitement. Donc on va l'empêcher de ruisseler, on va y remettre des haies, hein, pour la barrière au ruissellement, la couverture végétale, le petit filet d'eau ne pourra pas dévaler la pente, il sera arrêté à temps. Il faut que le sol soit poreux, ça va pas être le labour, parce qu'un excès de labour, on le sait, on réoxyde le carbone de l'humus qui retourne à l'état de gaz carbonique, mais pour rendre le sol poreux, on fera confiance aux vers de terre. Pour faire confiance aux vers de terre, on va évidemment s'interdire les insecticides, et ça va être la biologie des sols qui va nous rendre le sol poreux, et on veut ensuite que cette eau emmagasinée, donc il faut emmagasiner le maximum d'eau de pluie dans le sol, le surplus ira rejoindre la nappe phréatique, pourra remonter, mais il faut aussi avoir le maximum d'eau à hauteur des racines, et ça c'est l'humus. C'est l'humus qui retient l'eau à hauteur des racines, cette partie noire de nos sols hein, en question, c'est l'humus qui retient l'eau, et du coup il y aura davantage d'eau à la disposition des plantes, même au mois d'août quand il ne pleut pas. Et donc la plante pourra continuer de transpirer, même s'il y a une période de sécheresse. Donc oui, l'urgence, c'est d'empêcher le ruissellement, de favoriser l'infiltration de l'eau et d'enrichir tous les sols du monde, les nôtres y compris, en humus. L'humus, on l'a déjà dit, c'est beaucoup de carbone, un peu d'azote, c'est le carbone du gaz carbonique. Enfin, donc oui, l'agriculture inspirée de l'agroécologie permet de séquestrer du carbone dans les sols. C'est bon pour l'environnement, c'est bon pour atténuer le réchauffement climatique et c'est bon pour éviter l'érosion des sols et retenir l'eau. C'est bon pour les agriculteurs, c'est bon pour leurs revenus.
On entend, il y a vraiment urgence à cette transition alimentaire. Pour conclure ce podcast, je vais vous poser quelques questions que je pose à tous mes invités. Ma première question, elle sera un peu politique. Alors même si vous avez déjà répondu à plusieurs mesures politiques, vous avez déjà promu plusieurs mesures politiques dans le podcast, mais si vous en aviez une à souffler au gouvernement pour une alimentation plus durable, quelle serait-elle ?
Alors ce serait à la fois, ce serait de payer les agriculteurs pour leurs services environnementaux d'intérêt général. C'est-à-dire, à la fois, il y a une reconnaissance de l'agriculture biologique, et c'est quand même vrai qu'avoir supprimé les subventions au maintien de l'agriculture biologique était une grave erreur. Déjà, supprimons déjà pas les subventions à la conversion, parce que la conversion au bio, vous savez que les deux premières années, le rendement peut baisser, les coûts aussi baissent, mais vous n'avez pas le prix du produit bio. Vous n'avez pas encore, c'est pas encore labellisé, il y a deux années de transformation. Donc l'aide à la conversion, c'est très utile, mais surtout aujourd'hui, rémunérer les agriculteurs par la voie contractuelle pour leurs services d'intérêt général. Un peu sur le principe, dans telle région, il y a des techniques capables, effectivement, d'enrichir le sol en carbone, en humus. Ça peut être remettre les animaux sur la paille, ça peut être remettre des haies, ça peut être, y compris, les pommiers dans la prairie, les feuilles mortes vont tomber à terre, ça fertilise le sol en question. Mais enrichir un sol en humus, il y a des techniques, selon les régions, c'est pas exactement les mêmes. Et ben, on demande aux agriculteurs, à quel prix êtes-vous prêts à nous rendre ce service? Et les gens vont dire, écoutez, c'est un peu plus de boulot, on est obligé de diversifier, on est obligé de quelques terres en prairie permanente et autres, c'est plus de travail, nous on le fait, mais à tel prix. Et ben top là, on négocie 5 ans, vous nous rendez ces techniques et on vous paye. Les agriculteurs seraient plus des mendiants aidés à « on a besoin d'aide » et ce genre de choses, c'est « vous nous rendez un service d'intérêt général ». On reconnaît que c'est un service d'intérêt général et on vous paye à la hauteur de l'effort fourni. C'est le travail qui est rémunéré et non plus des subventions proportionnelles à l'hectare. Vous nous remettez des légumineuses dans nos rotations, nous assolements, dont nous sommes très déficitaires. Ce qui fait qu'on fertilise nos sols avec des engrais azotés de synthèse, coûteux en énergie fossile, très émetteurs de protoxyde d'azote. Vous nous remettez des légumineuses qui vont nourrir nos animaux et nous évitent d'importer du soja transgénique en provenance des Amériques. Et puis, ça nous évite les... Écoutez, c'est un service d'intérêt général. Eh bien, dites-moi, à quel prix êtes-vous prêt à nous remettre des légumineuses dans vos rotations et dans vos assolements? Ah, écoutez, voilà, ça exige plus de travail, remettre une luzerne, etc. Tout ça, c'est, écoutez, top là. À ce prix, je vous paye par la voie contractuelle. Vous mettez des infrastructures écologiques, des haies qui vont héberger des coccinelles, des syrphes, des pollinisateurs, des insectes auxiliaires et autres, les carabans s'attaquer aux limaces, ça nous évite les produits pesticides. Écoutez, dites-moi à quel prix êtes-vous prêt à nous mettre ces infrastructures écologiques. Top là, sur 5 ans, on vous paye tous les ans pour la mise en place de ces infrastructures. Vous n'êtes plus des mendiants, vous êtes des gens droits dans vos bottes, vous pouvez être fiers, on vous rémunère correctement. Les subventions de la politique agricole commune, voilà ma suggestion, que les subventions de la politique agricole commune, qui aujourd'hui sont plutôt redistribuées en proportion des surfaces, donc plus aux gens déjà un peu plus riches, moins aux plus pauvres. Non, ben, désormais, c'est le travail qui va être correctement rémunéré en échange d'un service d'intérêt général. Des paysans droits dans leurs bottes. Ce serait pas mal.
on est d'accord. De quoi vous êtes le plus fier dans tout votre parcours?
Oh, j'ai toujours été trop fier, donc il n'y a pas de... Non, mais effectivement, là, je vous cache pas, je reviens de République centrafricaine. La première fois que j'étais intervenu dans la région, là, Berbéranti, Gamboula, etc., les éleveurs étaient repartis au Cameroun. C'était guerre civile, hein, suite à la guerre civile. Hein. Et ben là, je suis retourné. Qu'est-ce que j'observe? C'est que les éleveurs peuls sont revenus. Il y a un nouveau droit foncier établi entre les agriculteurs et les éleveurs. Ils ont même mis en place des comités de gestion pastorale, c'est-à-dire qu'il y a quasiment une espèce de tribunal pour le cas où il y a des fraudes, c'est soit puni, mais c'est surtout une instance de concertation pour tous les ans bien définir quelles vont être les aires pastorales, les aires agricoles. Et bien, je vais vous dire, 4 ans après, ça faisait 4 ans que j'étais pas retourné là-bas, retrouver cette région pacifiée. Et je me dis, après tout, alors je n'ai été qu'un martien, hein, parce que c'est eux qui ont établi ce droit foncier, mais le fait que, certes, partageant une culture scientifique qui n'est pas la leur, j'ai pu discuter avec eux, dire ce que je croyais avoir compris, c'est-à-dire cette espèce de martien extérieur qui n'est pas impliqué dans leurs problèmes et qui dit qu'il entrevoit peut-être quelques solutions, mais les solutions, c'est quand même eux qui les ont mises en œuvre, hein. Peut-être un peu sur mes suggestions, et du coup, c'est vrai quand même que je suis quand même relativement content, pour être très honnête. Ma dernière mission là en République centrafricaine m'a plutôt rassuré. Mais savoir aussi qu'au Laos, on a été capable, par exemple, de commencer une transition de l'agriculture d'abattis brûlis vers l'agroforesterie, je suis pas non plus complètement mécontent. Alors après, il y a eu d'autres pays, notamment dans les réformes agraires en Amérique centrale, ça n'a pas été que des succès, loin de là. Hein. On n'a pas réussi à faire en sorte que les paysans s'emparent des terrains, et ça reste encore aujourd'hui. Donc il y a des choses aussi dont je reconnais, après avoir beaucoup travaillé, j'ai pas eu que du succès, loin de là.
Ce que vous changeriez du coup si c'était à refaire, c'est ça, en Amérique centrale?
Alors la question est là, elle devient très difficile pour les réformes agraires. Et j'avais quand même eu un petit succès, j'allais dire, quand même au Venezuela, hein, parce que de plus, à la fois j'ai été impliqué dans la réforme agraire, et ultérieurement j'ai fait ma thèse de doctorat sur la réforme agraire au Venezuela, et on a vu quand même quelques progrès positifs, mais très insuffisants. En Amérique centrale, très clairement, les grands propriétaires et puis l'armée qui était derrière, y a toujours refusé. Et même, on a vu, par exemple, au Nicaragua, le Front Sandiniste, qui avait beaucoup œuvré pour la réforme agraire, après n'a pas voulu redonner la terre aux paysans, elle a voulu faire des colcoses, des sauve-causes. Ça a été l'échec complet. Et aujourd'hui, je veux dire, le président du Nicaragua, soi-disant Sandiniste, je vais vous dire, c'est vraiment pas l'agriculture paysanne, c'est un désastre. Et oui, donc, on n'y est pas parvenu. C'est quand même un peu dommage, et je vous cache pas que pour les réformes agraires, quand on regarde les quelques réformes agraires très réussies dans le monde, les gens le savent pas trop, mais c'est, alors on pourrait parler du Japon, mais de Taïwan, hein, c'est juste après, donc Mao Tse-tung gagne sur le continent, Chiang Kai-shek se rapatrie à Formose, et c'est les États-Unis, hein, ne me dites pas que c'est des socialistes, qui disent à Chiang Kai-shek, bon maintenant... Si tu veux pas qu'il arrive à Taïwan, ce qui est arrivé dans la Chine continentale, tu fais une réforme agraire radicale. Je sais pas si on se tutoyait, mais enfin, en anglais, de toute façon, il n'y a pas de, c'est le you, on se tutoie. Mais tu fais une réforme agraire radicale. Et ça a été décisif, hein, dans l'industrialisation du pays. Le fait qu'il y ait une paysannerie qui était relativement égalitaire, qui a pu produire un peu de riz pour la ville, qui a pu acheter des chaussures. Comme tout le monde achetait les mêmes chaussures, tout le monde avait à peu près le même pouvoir d'achat, les économies d'échelle. Et si Taïwan s'est industrialisé par des emprunts ou des joint ventures avec les États-Unis, très vite, ils ont remboursé leurs emprunts. Et puis, un peu plus tardivement, après la guerre de Corée, les États-Unis font la même chose en Corée du Sud, pays industriel. Donc, on oublie, mais c'est ça qui est dramatique, c'est que c'est une redoutable efficacité, les réformes agraires, de repartir les terres de façon très égalitaire, les intégrer au marché, y compris pour relancer l'industrialisation, avec des produits homogènes. Tout le monde achète les mêmes baskets, tout le monde achète les mêmes jeans, tout le monde achète les mêmes choses. Je veux dire, mais vous fonctionnez à pleine capacité, vous remboursez vite vos emprunts. Et en Amérique latine, ça a été toujours l'échec. C'était John Kennedy, hein, qui avait proposé l'Alliance pour le Progrès, des réformes agraires dans les pays d'Amérique latine, avec l'espoir d'aider les pays en question à leur industrialisation. C'était aussi une façon pour les États-Unis, c'est de vendre des métiers à tisser et de vendre des produits de la sidérurgie, de l'industrie lourde. Hein. Ça a échoué, parce que dans les pays où vous avez des riches, quand ils deviennent plus riches, ben ils achètent pas plus de chaussures. Hein. Ils font quelques croisières en Méditerranée, ça crée pas beaucoup de valeur ajoutée dans leur pays. Et quand les pauvres ben, restent pauvres, ils peuvent même pas s'acheter de tongs, ben, ça relance pas l'industrie. Donc oui, une société plus égalitaire, y compris dans les paysanneries, dans les pays à dominante rurale, agricole et autres, la redistribution du foncier permet y compris de lancer ou relancer un processus d'industrialisation. Mais vous voyez bien, à chaque fois que ça a réussi, il a fallu des guerres. Enfin, je veux dire, c'était après des événements, mais très gravissimes. Et c'est ça qui est un peu ennuyeux, c'est qu'on parvient pas, rarement en tout cas, à promouvoir des réformes agraires par une voie démocratique, sans conflit, sans bain de sang. Et ça c'est quand même extrêmement dommage. Au Venezuela, on y était arrivé un petit peu parce que le pétrole permettait d'indemniser. Au Chili, effectivement, Allende a tenté et puis tout de suite ça a été Pinochet qui est intervenu, et puis l'Amérique centrale, si on parle Nicaragua, Salvador, Guatemala aujourd'hui, je vous dis tout de suite, on n'a pas fait de réforme agraire, beaucoup de gens sont dans les bidonvilles, les gens des bidonvilles sont les boucliers humains des narcotrafiquants, enfin je veux dire, c'est dramatique. Il y a le Mexique qui a réussi un petit moment à faire une réforme agraire, après Zapata, hein, ça commence à dater, et qui a eu une relative efficacité, mais bon, pas assez, pas suffisamment.
Est-ce que vous auriez un conseil de lecture, de film ou autre à donner à nos auditrices et auditeurs qui ont envie d'approfondir tous ces sujets?
Il y a un film qui porte sur l'agriculture régénératrice, et je crois que c'est par Régénération, dans lequel on voit brutalement d'ailleurs un ministre français, Stéphane Le Foll, apparaître dans un film américain. C'est un très beau documentaire pour montrer qu'il y a des formes d'agriculture alternatives qui permettent de nourrir correctement le monde. C'est quand même un très très bon film, et dans lequel il y a y compris le projet 4 pour 1000 séquestrer du carbone dans les sols à hauteur de 4 pour 1000 par an. Très très bon film dont je me souviens plus exactement le titre, c'est bien ça le problème.
On va chercher et on mettra le lien dans
voilà,
le podcast.
Voilà, vous mettez le lien, oui. Ça a voir avec ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice, l'agriculture de conservation, oui.
Merci beaucoup Marc Dufumier.
Non, je vous en prie, merci.
Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill décotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.ecotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt.
Écotable. Écotable.